À voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à Agnès Varda, disparue en mars dernier. En 2003, Antoine Guillot s'entretenait avec la réalisatrice. Ce soir, dans les coulisses de la Croisette.
Bonjour Agnès Varda.
Bonjour Antoine Guillot.
C'est notre quatrième jour d'A Voix Nue consacré au Festival de Cannes, vu par vous, votre histoire. Et puis alors, depuis hier, ça y est, on est à Cannes. Vous avez eu enfin une journée entière quasiment passée à Cannes.
Oui, j'ai pas encore vu des films. Pour le moment, hier, j'ai vu des gens. J'ai rencontré beaucoup de monde très sympathique. Je me suis mis un peu dans ce bain de rencontres internationales de Cannes. Et j'ai été au cinéma le soir sur la plage, j'en parlerai un petit peu plus tard. Je voulais parler d'aujourd'hui et je voulais dire que d'avoir accepté de travailler un petit peu pour France Culture, à la demande de Laura Adler, je ne peux pas voir les films. Parce que j'aurais bien été voir ce matin Purple Butterfly, un film chinois de Liu Yue.
Oui, que j'ai vu hier en projection de presse, qui est un très beau film. Je pense que ça vous intéressera parce que c'est très étonnant.
Du coup, comme je n'ai pas pu le voir parce que je vais chez Marc Boinchet à l'heure du déjeuner, je vais être obligée de m'habiller bien et de le voir ce soir.
C'est un plaisir de bien s'habiller, non?
Je ne sais pas vraiment, ce n'est pas mon truc, mais enfin bon. Donc je vais aller en grande soirée, comme on dit. Et puis aussi, à l'instant même où nous parlons, il y a un film sri-lankais dont on m'a beaucoup parlé, qui s'appelle Le Domaine, Mansion by the Lake. Je ne sais pas si vous en avez parlé.
Je l'ai vu aussi.
Antoine voit tout. Alors,
lui, je suis là pour voir des films.
Mais je ne sais pas comment vous y arrivez, parce que moi,
je
n'arrive pas.
Je ne sais pas non plus. C'est Lester James Perry, qui est le grand réalisateur sri-lankais. Il a 86 ans et il tourne encore.
Bon, ben, j'ai encore quelques jours devant moi. Alors, effectivement, il y a tellement de sections, plus le marché. Alors, le marché, c'est extraordinaire. J'ai regardé le catalogue du marché dans la même journée. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué, à la même heure. À 13h30, il y a 15 films. À 15h30, il y a 15 films. C'est-à-dire, ceux qui vont faire leur marché au marché, bien sûr, piquent les films qui sont passés deux ou trois jours avant. C'est-à-dire, on ne peut déjà pas voir ce qui a passé au début. Mais quand même, ils ont loupé les soirées, donc ils vont acheter. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a certains films qui sortent déjà en France. Par exemple, le film de Lars von Trier est déjà dans les salles. Un autre aussi.
Matrix est sorti aussi.
Oui, avec succès, je crois.
Avec grand succès, oui, oui.
On sait comment a commencé Lars?
Lars von Trier, non, on n'a pas encore les chiffres. C'est un film qui est tellement pas évident, tellement radical, j'ai aucune idée de comment ça peut marcher. Mais vous, quand vous êtes à Paris, qu'on parle beaucoup de Cannes, parce que ce qui est terrible, c'est que même si on est à Paris, on est à Cannes, tellement on en parle dans les journaux. Vous suivez, vous, quand même?
D'abord, on a un peu les journaux, mais ça m'embête un peu, parce que quand on lit tout avant un film, on n'a plus envie de le voir. Par contre, on répète à Paris la quinzaine des réalisateurs, on répète la semaine de la critique, qui est une section tout à fait intéressante, rare, radicale dans ses choix. C'est Claire Clouseau, que je connais depuis très longtemps, qui cette année préside ça, depuis 2 ans, je crois d'ailleurs. Et les grands films de la compétition, ben, y en a qui sortent ou il y en a où il faut attendre. Bon, Cannes est effectivement à Cannes et puis un peu ailleurs. Au fond, on arrive à voir les films. Mais jamais autant qu'ici. Ici, c'est le bombardement. C'est cette impression extraordinaire d'un feu d'artifice. Et on pique là-dedans. Une petite étoile, une petite chose jetée par terre, une gerbe. Enfin, on choisit un peu au hasard. Vous avez l'air de choisir avec beaucoup de discernement. Peut-être qu'on vous parle des films avant, mais c'est difficile, quoi.
Non, mais c'est le choix se fait. Malheureusement, on doit suivre la compétition. Je dirais malheureusement parce qu'à côté de ça, il y a des tas de films intéressants, comme vous dites, à la quinzaine des réalisateurs, à la semaine de la critique. Et j'ai l'impression que cette année, ils ont mis tellement de films, non seulement en compétition, mais hors compétition, qu'il est difficile d'aller ailleurs.
Il y a des sections. Par exemple, la Ciné Fondation, qui est une belle chose qui a été créée ici avec l'argent. Je crois que le festival est une association, est obligé de remettre son argent dans quelque chose. Et ils ont créé une sorte de Villa Médicis à Paris où des cinéastes triés, je ne sais pas par qui, mais enfin étrangers, viennent passer un an à Paris. C'est comme une bourse d'études. Et ça a donné d'ailleurs des cinéastes qui ont ensuite à travailler et sont revenus à Cannes. Eh bien, Ciné Fondation aujourd'hui présente des courts-métrages. Ben, moi, je suis une grande défenseuse des courts-métrages, d'ailleurs, je viens d'en finir un. C'est mon dernier petit opus. Eh bien, il y a aujourd'hui 10 courts-métrages, à 11h et à 14h45, qui permettent de découvrir. Alors là, c'est vraiment qu'on découvre le début des cinéastes, parce que très souvent, ils commencent comme ça. Donc, ceux qui ont le temps de pister toutes ces choses-là, vont peut-être là découvrir ceux qui, dans 1 an, 2 ans, seront ou à la quinzaine, ou à un certain regard, ou bien grimpent les échelons, ce qui est le cas pour Bonello, qui était à la quinzaine, je crois, il y a 2 ans.
Il avait été à la semaine de la critique,
avec le pornographe, et qui revient de la compétition avec Thérésias. Donc, il y a une espèce, quand on est curieux des cinéastes qui se fraient leur chemin, pas forcément un chemin de carrière, mais un chemin de reconnaissance, c'est amusant parce que de festival en festival, on les voit apparaître. Dans les sections discrètes, quelquefois même rue d'Antibes. Et puis, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, ils sont en compétition.
Alors, quand vous avez le temps, que vous n'êtes pas en train de travailler pour France Culture, comment vous, parce que vous m'avez posé la question et je vous la retourne, comment vous choisissez les films que vous allez aller voir?
Ben, un peu Léon dit, de personnes auxquelles que j'écoute, que je trouve sensibles. Par exemple, il y a Frédéric Bonneau qui écrivait aux Incorruptibles. Maintenant, je ne sais plus où il écrit.
Ah, maintenant, il est sur France Inter.
Ah, ben, très bien. Mais dont j'aime le goût et la finesse, par exemple. Il y a Franck Weber, qui est à Canal, mais qui avait travaillé à Ciné Tamaris, que j'aime beaucoup. Il y a Marie-Pierre Massia. Il y a des gens comme ça dont... Je ne veux pas dire que j'écoute ce qu'ils disent, mais je suppose que leur choix n'est pas dicté par aucune considération, je ne sais pas, commerciale ou à la mode.
Alors, ça, c'est Cannes. Il fallait quand même la voir au micro.
Alors, je coupe. Je coupe, je suis obligée, mais c'est comme la plume au vent. Femme varie. Voilà. C'est un beau sujet de réflexion ici.
Il faut dire que c'est sûrement le seul lieu aussi à Cannes où on a beau faire, pendant une projection, il y a toujours au moins un portable qui sonne.
Ah oui, les projections. Ah
mais non, voilà, je crois que vous ne l'avez toujours pas éteint.
Je l'ai coupé. Oh là là.
Il y a quelqu'un qui tient vraiment à vous appeler, c'est peut-être...
Ça y est, ce coup-là j'ai fermé. Mais je m'excuse, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Mais là on est entre nous quand même.
Mais oui, maintenant on se connaît, chère Agnès.
Et puis vous savez, je crois que justement, puisqu'on est sur France Culture, je crois franchement que le portable c'est la fin de la civilisation. Je crois que vraiment c'est ce qui a fait qu'entre les gens qui n'étaient déjà pas très polis et une espèce de grossièreté qui s'est installée partout, puisque ça veut dire que dans n'importe quelle conversation, n'importe quel repas, au milieu d'une phrase, les gens décrochent leur téléphone et répondent à autre. C'est-à-dire que je le fais moi-même, ça m'arrive parce qu'on est quelquefois dans des raisons, pour des raisons professionnelles, obligé de le faire. Je me rends compte que c'est quand même une grande porte ouverte à la grossièreté.
Mais on ne peut plus s'en séparer maintenant.
Ben c'est pratique. Sur les tournages, par exemple, c'est absolument vrai que d'un lieu à l'autre de tournage, quand un technicien est à l'autre bout, une voiture manque, quelqu'un est en train de se maquiller ou je ne sais pas quoi, le portable, ça sauve tout le monde. On sait où on en est, on sait qui arrive où. Par exemple, là, nous attendons Thierry Frémaux, lequel Thierry présente un film à 5 heures. Il ne nous a pas dit quoi, mais il va nous le dire. J'aimerais bien qu'il vienne parler. On l'a prévenu sur son portable. Et il a dit qu'il arriverait entre 5h10 et 5h15. Ben, au moins, on le sait.
C'est peut-être lui qui était en train d'essayer de vous appeler sur votre portable.
Ah, ça, c'est intéressant. Il dirait qu'il ne vient pas. Non, il vient. Parce que c'est très important, ceux qui sont en amont. On oublie toujours qu'un festival qui est un feu d'artifice de 15 jours est préparé 4 mois en avance par ceux qui le fabriquent, l'organisent, l'installent, mais 1 an en avance par les programmateurs. Je sais que Gilles Jacob, Thierry Frémaux et d'autres, dans toutes les sections, commencent en novembre-décembre à voir des films, à aller à l'étranger, à chercher, à faire leur choix. Et ensuite, je suppose qu'ils se disputent un peu pour savoir dans quelle catégorie. Puisque si j'ai bien pu comprendre, Bonello était soi-disant là... Un certain regard,
voilà.
Et tac, au dernier moment, on l'a glissé de catégorie.
Cinq minutes avant, voilà. On l'a fait grimper, comme on dit. Quel sens du timing. Bonjour Thierry Frémaux.
Bonjour.
On vous avait coupé la parole un peu sèchement hier, alors on vous a réinvité aujourd'hui.
C'est gentil. J'avais pas le sentiment que vous m'aviez coupé la parole, d'ailleurs.
Non, on t'avait invité à parler de ta sélection, de l'énorme travail et de quelle intuition, quelle cinéphilie et quel feeling, pour parler un mot anglais comme ça, qu'est-ce qui fait que tu choisis tel ou tel film? C'est pas quand même politique, c'est pas pour avoir un peu de chaque, c'est pas pour avoir des grands et des petits.
Non, c'est difficilement explicable, surtout que quand on a raison, si j'ose dire, quand le film me plaît à la presse, au festivalier, ce n'est pas explicable, on n'a pas envie de l'expliquer. Et quand on n'a pas raison, en tout cas quand un film, ça se passe pas très bien, on n'a pas envie d'en parler non plus, parce qu'on se dit qu'on s'est sans doute trompé. Non, je crois que... Il faut connaître le cinéma, il faut connaître Cannes, il faut savoir quel est l'état du cinéma et savoir qu'on peut se tromper et n'être jamais autre chose que complètement sincère, parce que c'est déjà si difficile d'expliquer ce qu'on aime si c'est en plus pour avoir de mauvaises raisons lorsqu'on choisit un film, en effet, comme tu dis, pour des questions, je ne sais pas, d'équilibre, de consolation, je ne sais quoi, ça c'est tout à fait impossible.
Alors ton calme, Antoine disait, alors il y a une théorie sur le calme et la façon extraordinaire où tu traverses toutes tes présentations, toutes les sollicitations en restant calme. Alors vas-y Antoine.
Eh bien, je crois savoir, Thierry Frémaux, que vous avez une ceinture très très sombre en judo et que c'est sans doute de là que vous vient votre aspect très zen quand on vous voit présenter les projections d'un certain regard dont vous revenez là.
Mmh. Oui, là je reviens de la salle Buñuel même. Oui, en effet, j'ai un passé de judoka et de professeur de judo. Alors, on a coutume de dire qu'en judo, chez les enfants, parce que j'ai commencé tout jeune et j'ai été à mon tour professeur, on excite les plus calmes et on calme les plus excités. Et donc, c'est peut-être de là que me vient ce qu'on me reconnaît en étant comme étant un peu de sang-froid ou de calme. En tout cas, il faut en avoir quand on fait ce travail-là, sans jamais perdre le sens de l'engagement. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut se battre.
C'est ça. Tu es un cinéphile engagé. J'ai aimé ce mot.
Oui, il faut. Oui, parce que tous les films qu'on a ici, on les aimait avant et on les aimera pareil après, même quand ça s'est mal passé. D'abord parce que la réaction cannoise à un film n'est pas la vérité définitive. On le sait, des films qui ont été difficilement accueillis ici se sont parfois bien sortis de ce signe indien lorsqu'ils sont sortis plus tard en salle, où l'histoire du cinéma leur a reconnu une place qui n'était pas celle que les cinéphiles cannois leur avaient faite en direct. Et puis faut y croire. Et puis il y a des choses plus graves. C'est-à-dire qu'il est vrai, on sort d'une journée tumultueuse hier où on a fait une sorte de grand écart au fond entre le film de Vincent Gallo et le film de Denis Arcan. Le film de Vincent Gallo est l'un des représentants du cinéma underground, du cinéma expérimental, et c'est vrai qu'on se dit on va essayer de le mettre en compétition, donc de l'exposer très fortement. Les résultats, si j'ose dire, sont au-delà de nos espérances dans la façon dont le film a suscité rejet ou adoration. Et puis en revanche, le film de Denis Arcan, d'une facture plus classique, mais qui parle de nous, qui parle de notre histoire, qui a suscité parfois chez les critiques à la recherche de novations formelles, dont ils disent que c'est à Cannes qu'on doit les trouver, une déception. Le film n'était pas un objet de cinéma rare, mais en même temps, le public l'a accueilli de façon tout à fait extraordinaire hier.
Alors je vais te dire, je propose une chose, qu'aujourd'hui on saute l'abécédaire de Dino Risi, parce que d'abord je suis très contente de t'avoir là, on mettra deux trucs demain.
Bon, on les passera les deux demain.
Alors. Mais je voulais te faire une petite surprise, parce que, pas une surprise, mais te raconter que dans la petite mission qui m'a été donnée à France Culture, je suis libre comme un petit oiseau, je ne suis pas obligée de voir des films ni d'en parler, mais quelque chose me faisait très envie, l'hommage à Fellini bien sûr, je voulais voir Amarcord sur la plage, et j'ai emmené mon petit matériel de prise de son. Alors, je dois dire, j'ai été godiche comme tout, parce qu'il y a un Sony, il y a un micro, bien sûr, il faut brancher tout ça. Et attends, le problème, c'est que comme on ne voit rien, j'avais une lampe de poche. Alors, comme je n'ai que deux mains, j'avais la lampe de poche dans ma bouche pour éclairer le Sony que je tenais d'une main, le micro autour du cou, et j'ai été m'approcher du bord de l'eau, parce que mon désir, c'était d'entendre la mer, qui est quand même une des belles choses qui sont à Cannes, le bord de mer et à Amarcord. Et voilà ce que j'ai recordé, si j'ose dire, mais pas très bien, mais tu vas voir, ça va peut-être te plaire. Oui, alors c'est la plage de Cannes, en même temps que le Amarcord.
Dammi il piatto di tuo fratello!
Metti già quel piatto! Dove vai?
Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas beau?
Ah, c'est très très beau, mais c'est même assez émouvant, d'autant que je viens d'avoir une frayeur rétrospective, c'est que je n'imaginais pas que le bruit des vagues était si présent lorsque...
Non, il ne l'est pas du tout.
Ah, mais
c'est moi, j'ai été me mettre à quatre pattes dans la mer,
oui,
quasiment. C'est pour ça, c'est une mauvaise prise de son, pleine de bruit. Elle n'est évidemment pas du tout celle qu'entendent les gens. Donc. Alors à propos des gens, j'ai quelque chose à dire. Est-ce que c'est un reproche? Je ne pense pas du tout que tu en es responsable, mais il se passe quelque chose de pas beau à cette plage des Palmes, à cette plage de cinéma. L'année dernière, Tati, c'était plage publique, gratuit, Tati. Cette année, quand je suis descendue, je n'avais pas pris ma carte pour voir. Alors, il se passe que devant l'écran, il y a des fauteuils, des petits fauteuils de plage. Et ceux qui ont la carte du festival, ou ceux qui ont été faire la queue à l'office du tourisme, personne ne sait, peuvent venir s'asseoir. Et puis après, il y a des barrières. Et le petit peuple qui arrive vraiment à la plage publique ne met même pas en face du film. Il est tout à fait en biais, assis dans le sable. Il ne peut même pas... S'il n'y avait pas de barrière, il pourrait aller se mettre entre les banquettes, je ne sais pas, debout derrière les fauteuils. Ça a fait l'effet que nous savons ici à Cannes, que c'est une école d'humiliation, il faut dire, et que le système des classes et des cartes est dramatique. Et ça m'a déçu. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais où vous mettez des canapés pour tout le monde, ou bien tout le monde peut s'asseoir, et puis c'est tout. J'ai trouvé très triste que le petit peuple, qui ne sait pas où est l'office de tourisme, qui n'a pas de carte, ne peut même pas voir le film en face. Je le dis parce que je ne sais pas qui a organisé ça comme ça.
Thierry Frémaux.
C'est pas toi. Hein.
Non, oui, c'est... En effet, la plage est ouverte à tout le monde, mais il est vrai qu'il faut aller chercher ces fameux tickets qui vous permettent d'accéder aux chaises longues. C'est une manière de contrôler la fréquentation et de savoir combien de chaises longues on doit installer. Et du coup... Elle est quand même publique, c'est-à-dire qui veut y aller, y
alors
va.
Alors, un peu les barrières.
Et en effet, du coup, comme les chaises longues sont au milieu, et si j'ose dire, dans la limite des places disponibles, les premiers arrivés prennent les chaises longues. Donc, en effet, après, les gens sont sur les côtés. Mais là, oui, évidemment, l'effet extérieur peut sembler donné à nouveau dans la caste, dans le privilège, ben même oui. Si ça transgresse les classes sociales, parce qu'à Cannes, c'est vrai que c'est le lieu de toutes les humiliations, c'est tout à fait juste. Et moi, j'oublie pas celle que j'ai eu à subir lorsque j'étais jeune festivalier. C'est difficile à changer, c'est difficile à faire évoluer. En même temps, le cinéma de la plage est vraiment ouvert à tout le monde parce qu'on voit des gens d'ailleurs qui restent debout, qui s'installent un peu n'importe où.
Thierry, pourquoi ça, les premiers arrivés s'assoient ? Pas de barrière ? Et les autres sont pas assis, puis c'est tout ?
Oui. Enfin bon, il y a
l'histoire de la barrière.
C'est une
quoi.
Histoire de. Oui, c'est des barrières. On va enlever les barrières.
Alors que ça me ferait plaisir.
Mais vous vouliez parler plus précisément des accréditations à Cannes.
Je vais garder ça pour demain parce que j'ai une grande enquête à faire sur les cartes. Il y a 10 000 cartes et c'est très amusant.
Les couleurs des cartes
et qui est quoi, c'est ça. Alors, puisqu'on est là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a, si j'ai bien compris, même pour la presse, il y a les degrés. Alors il y a le petit journaliste, le moyen journaliste, celui qui fait, etc. Et puis ça monte, alors il arrive à... Tout d'un coup, il a la carte rose. Ça, c'est déjà... Après, il a la carte rose à point jaune. Et puis, quelques-uns ont la carte blanche. Alors, ça, c'est pour les journalistes, mais pour les autres gens, entre les cinéphiles, les étudiants, les marchands, les pas marchands, les représentations, les techniciens, c'est un dédale. Et il est en même temps kafkaïen et obligatoire, je crois, parce que sinon, il y a un monde fou qui vient. Il faut bien les classer, si j'ose dire. Mais c'est vrai qu'on est dans des tiroirs, et tu l'as connu comme toi, comme moi, toi débutant. Et moi, jeune réalisatrice, même quand j'ai présenté Cléo en compétition, comme c'est la première fois que j'arrivais, c'était en 61, tout ça n'était pas très organisé. On ne savait pas où aller, on se faisait pousser partout. On vous disait pas ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, j'ai été présentée par Léon Zitrone, Varga. Parce que pour te dire que je n'étais pas très connue. Il m'a pris pour une girl. Il y avait des girls qui s'appelaient Varga au Casino de Paris. Donc, tout arrive à Cannes, les bonnes choses et les moins bonnes. Mais si j'ai dit ce truc de la plage, parce que ça me semblait... Je voulais pas faire de la... Pas à faire du côté du petit peuple, enfin quand même. Ils ont déjà une petite plage publique, si petite par rapport à toutes les plages des hôtels. Ils ont un seul endroit. Alors mettez les choses longues, puis que n'importe qui les prenne quand ils arrivent.
Et en même temps, ce cinéma de la plage était précis. La nature de ce projet, c'est ça. C'est de faire sortir le cinéma du palais, du bunker, et donc de le rendre aussi aux Cannois ou à ceux qui ne peuvent pas pénétrer dans le palais ou à ceux qui ne peuvent pas assister à des films. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce soir, comme on est obligé de reporter à cause du vent, non pas de la pluie, la séance des triplettes de Belleville, du coup, le film sera ajouté au programme de ce soir. Comme il y a Prova d'Orchestra qui dure une heure, les triplettes durant une heure et quart, ça fait un joli programme, et on demandera à ce que les barrières soient moins hautes.
Ben, il faut simplement enlever les barrières entre les chaises et les autres. Ils se faufileront, ils voudront. Et puis, est-ce qu'on peut baisser un petit peu la lumière de la rue ? Parce que la projection est tout à fait pâle par le fait que la croisette est très bien éclairée.
Oui, oui.
Alors, quand c'est cinéma, c'est pas croisette, quoi. On peut pas obtenir ça.
Ben, on demande un petit peu à la mairie de le faire. Chacun fait beaucoup d'efforts, mais on n'atteint pas encore la perfection. Parce qu'en effet, on exige la perfection.
À la perfection. Tu as vu que ce que je t'ai amené comme petite bande était très mal enregistré avec des bruits de micro et tout, mais quelquefois l'émotion remplace la perfection, si tu en es d'accord.
Oui, non, absolument. Et sur la sécurité, c'est des choses compliquées. Il m'arrive moi-même de me faire arrêter par des agents de sécurité parce que je vais trop vite. Et À ce moment-là, je sors ma carte, donc je suis comme tout le monde, je dois présenter un badge, et je ne me dispute pas avec eux pour ne pas après donner le sentiment qu'il y aurait des passe-droits. Tout ça est compliqué pour tout le monde.
Mais t'es le chef quand même, t'as quelques droits.
Et je montre mon badge.
Merci d'être venu, cher Thierry.
Moi j'ai une petite question, simplement, Thierry Frémaux, qu'est-ce qui fait que, apparemment dès l'origine, le Festival de Cannes était un festival où on n'achète pas ses billets, ce qui n'est pas le cas à Venise, à Berlin, mais où il faut avoir une accréditation pour pouvoir venir?
Parce que le Festival de Cannes a été... Alors, je parle de le Festival de Cannes de l'après-guerre et non pas celui de 1939 qui n'a pas eu lieu. Louis Lumière ayant dû rentrer chez lui la veille de l'ouverture, qui était aussi celle de la déclaration de la guerre. Et non, c'est parce que des gens venaient se retrouver voir des films. Donc, il n'y a pas eu tout de suite cette notion de marché, cette notion de... Et donc, on venait voir des films, et la question était de voir des films différemment, et c'était sur invitation. C'est pour nous, organisateurs, humbles continuateurs d'une tradition qui a fait ses preuves, mais ça continue à être ça. Nous invitons les gens à venir voir des films.
Mais vous refusez aussi beaucoup de monde. J'imagine que c'est ça le problème, le vrai problème de Cannes, quand on parlait d'humiliation et de choses comme ça.
Oui, c'est qu'on est obligé de faire une sorte de malthusianisme terrible sur les accréditations, sur les accompagnants des accrédités. Il nous manque une troisième grande salle, par exemple, très clairement. Et en même temps, on veut faire attention à ce que Cannes ne devienne pas un supermarché du film. Ça doit rester un choix, une sélection, une distinction, si j'ose dire. Donc on se tient toujours à 50 films. On en a vu 900, on n'en montre que 50.
On aurait dit ça recommence. 900, tu as vu 900 films en un an.
Moi j'en ai vu 600, mais tous mes collaborateurs et tous nos correspondants étrangers, on a 900 films sont passés sous nos yeux, oui.
Est-ce qu'il y a un film, un type de film cannois?
Non, parce que d'abord si on le savait, on prendrait que cela. Et puis c'est ça qui est aussi très bien, mais c'est aussi le cinéma et l'art en général. C'est-à-dire que c'est l'œuvre. Ça, c'est Roland Barthes qui disait ça, que l'œuvre connaît un autre destin dès lors que des yeux la regardent. Et c'est le regard posé sur l'œuvre qui lui redonne une existence. Nous, on voit les films, on est 2, 3, 4 personnes dans une salle. Ici, à Cannes, ça change tout. Donc il faut à la fois l'anticiper et en même temps, heureusement, on a de belles surprises et des choses inattendues.
Et oui, moi j'ai connu ça, j'ai connu de faire Jacques Audenant comme ça, avec émotion, avec un peu d'inquiétude, et de le présenter pas fini à Gilles Jacob et à... Je crois qu'il y avait Jean de Baroncelli, enfin ils étaient 2 ou 3. Il a été sélectionné, je l'ai fini, au fond, on ne savait pas ce que ça allait donner, comme on dit. Et l'émotion qui était dans la salle ici, pourtant, il y a toutes sortes de gens qui ont la dent dure, et c'est quand même dur les projections en grande salle ici, hein.
Ah oui, oui. Cette année, d'ailleurs, particulièrement, le public est très réactif, d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, le public, si j'ose dire, non professionnel, qu'on retrouve souvent aux démarches le soir pour la projection de 22h, je le trouve à la fois très attentif et très réactif. Donc, on peut voir y a sur le visage des cinéastes une fébrilité terrible, parce que tu l'as fait, Agnès. Je crois que lorsqu'on monte tout à coup son film à 2300 personnes, on ne sait plus ce que c'est qu'on va montrer. On ne se souvient plus de son film, on ne sait plus qui on est.
On est à l'écoute. Non, moi, je n'ai pas ces problèmes existentiels, je veux dire. Je suis assez calme, je ne fais pas de judo, mais je suis assez calme. Mais par contre, l'écoute tout d'un coup, de cette espèce de silence ou pas silence, ou respiration, ou émotion. On sent une émotion de salle. On sent le rire ou le sourire d'une salle, même si ça ne rit pas. Et cette chose-là, dans une très grande salle, c'est une impression extraordinaire. Je l'ai connue plusieurs fois et c'est extraordinaire.
Mais moi, je me souviens d'une réalisatrice française dont on montrait le film. Je lui serre la main juste avant que la projection, les lumières s'éteignent et la projection commence. Pour lui souhaiter bonjour, elle me dit « Il est bien mon film, non ?» Tout à coup, elle savait plus rien, tellement la salle l'avait pétrifiée.
C'est pas moi, c'est-à-dire, c'était pas moi.
Non, c'était pas toi.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas justement le trac dont je parle, le trac que connaissent certains, bien sûr. C'est cette chose que nous sommes en face de 2500 personnes, comme tu dis, réactives, et qui sont rentrées peut-être occupées d'autres choses, et qu'on est obligé de faire rentrer dans le film. Et suivant comment ils rentrent, suivant comment ils sourient, c'est du petit lait, ça. Même si le film après gagne pas ou se fait pas remarquer, c'est un cadeau, je veux dire, dans une grande salle comme celle de Cannes. Et je pense que tous ceux qui sont en sélection ou en projection dans cette salle le retiennent comme un cadeau.
Oui, parce qu'il y a 3 choses, au fond, pour un cinéaste, quand il vient. Il y a la projection du film, il y a la presse et il y a le palmarès. la presse et le palmarès, par définition, nous ne contrôlons rien. C'est complètement indépendant de nous. En revanche, que le cinéaste soit bien accueilli, qu'il ait le sentiment d'abord d'être accueilli par les gens qui ont aimé son film et qui vont le faire aimer, ça, on peut contrôler. Et donc, montrer ce film sur ce magnifique écran qui est l'écran de la salle de lumière, ça, c'est le cadeau qu'on fait au cinéaste. Et moi, j'ai remarqué que des plus jeunes aux plus aguerris, en effet, l'idée de voir leur création sur cet écran et avec ce public, ça, c'était un cadeau. Et après, il faut s'affronter, en effet, aux réactions du public.
Qu'est-ce que vous dites aux réalisateurs quand vous les accueillez avec Gilles Jacob en haut des marches, là, quand ils ont gravi cet escalier, on vous voit toujours leur dire un petit mot?
Oh, c'est pas du tout, c'est souvent personnel, c'est-à-dire qu'on a des on les connaît, on s'est parlé pendant l'hiver, alors ça peut être, je sais pas, enfin ça, en général c'est quand même un mot de bienvenue, un mot destiné aussi à les rassurer, parce que cette montée des marches, mais pour tout le monde, est un truc physique où il faut comme ça grimper, mais ça peut être aussi des petites choses. Le héros du film de Denis Arcand, par exemple, je lui ai dit un petit mot qui était lié au film, alors ça l'a fait un peu rire, donc ça les détend. Et puis il y a des choses, ça dépend, Gilles par exemple est très lié à Lars von Trier, donc j'ai vu qu'il se parlait.
Il paraît qu'il l'appelle Dad.
Voilà, et puis en revanche, Nicole Kidman, qui fut ma première invitée pour Moulin Rouge, et on s'était revu deux ou trois fois, donc c'était la deuxième, à nouveau, je l'accueille à nouveau, donc là, et à la sortie du film, il y a eu tout ce. Cette chose qui fait qu'elle a quitté ses chaussures parce qu'elle avait des talons, parce qu'en fait elle voulait aller saluer les gens, donc ça c'est compliqué, faut faire un clin d'œil à la sécurité pour pas qu'il y ait le moindre danger qu'elle le fasse, et en même temps elle avait très envie de le faire, et il fallait la laisser faire et pas laisser, disons, une sorte de solennité comme ça, rigide. Bon voilà, c'est tout ça qui doit se jouer aux démarches, donc il faut que chacun s'y sente très très bien.
Ben, nous revenons à ta formation du judoka. Tu es parfait, calme en tout cas.
Vous sentez bien, vous, sur les marches, Agnès Varda?
Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire parce que quand je suis venue la première fois, c'était pour des films. Mais quand les photographes me disent « Agnès, ça me fait rigoler » parce que je ne suis pas du tout une figure du cinéma puisque je suis derrière la caméra. Mm-hmm. Mais qu'il y ait 3 ou 4 photographes qui me reconnaissent, je trouve ça très rigolo comme tout. Je ne pense pas du tout que c'est important. Moi, je viens à Cannes comme technicienne de radio aujourd'hui, mais d'habitude technicienne de cinéma, réalisatrice. J'ai un grand plaisir à Cannes et je n'en souffre jamais.
On retrouvera votre grand plaisir à Cannes demain, Agnès, pour la dernière partie de cette série d'avoir nuit avec vous. À demain, Agnès.
À bientôt.
Et merci, Thierry.
Au revoir, Antoine.
Vous trouverez la 5e et dernière rencontre d'Antoine Guillot avec Agnès Varda en 2003 sur franceculture.fr. À voix nue, réalisation Doria Zénine, Marie-Christine Closet, Philippe Baudouin. Coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.